Il ne nous reste plus qu'à extraire pour vous de la Gazette des tribunaux où elles ont été publiées à leur date, des échantillons variés de ce qui s'y jugeait. En voici donc le deuxième livret. Maintenant, huissier, appelez les causes.
Affaire suivante. Le chien qui parle.
Du temps où les bêtes parlaient, a dit le fabuliste. Donc, elles ont parlé. Et si elles ont parlé, pourquoi ne parleraient-elles pas encore?
Ne rions donc pas trop de l'affirmation d'un marchand de vin qui a cru fermement entendre parler un chien, cet animal étant d'ailleurs réputé pour son intelligence. On n'en est plus à ignorer que par l'instruction, il joue aux cartes, aux dominos et gagne généralement les parties contre ses adversaires. Pourquoi, dès lors, ne lui apprendrait-on pas à parler? C'est l'explication donnée par le plaignant de sa crédulité dont se réjouit fort l'auditoire qui assiste au petit procès d'escroquerie soumis au tribunal.
« Eh bien ?»
lui dit Monsieur le Président.
« Vous avez une foi robuste. »
La tronche le plaignant.
« Mais Monsieur le Président, les consommateurs qui étaient chez moi à ce moment-là l'ont cru aussi. »«
Que le chien du prévenu parlait ?»«
Mais certainement, ni plus ni moins qu'une personne naturelle. »«
Vous avez tenu une conversation avec lui ?»
Oh non, pas tant que ça.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit?
Voilà, Monsieur Pivot,
c'est le prévenu,
entre dans mon établissement avec son chien, qui était un caniche.
Vous le connaissiez?
Le chien?
Le prévenu.
Ah, je ne les connaissais ni l'un ni l'autre. Alors, il se met à une table, le chien saute sur un tabouret à côté de son maître et se met sur son derrière. Je m'approche, je demande à l'individu ce qu'il faut lui servir. Il me répond un boc. Là-dessus, voilà une voix toute drôle qui dit « Moi, un veau ». Je reste de là, regardant qui est-ce qui avait dit ça avec cette voix-là. Le maître me dit « Ne faites pas attention, c'est mon chien ». « Comment votre chien que je fais ?»« Oui, qu'il me répond, je lui ai appris à parler ». Moi, pensais, je ne pouvais pas en revenir. Je croyais qu'il se fichait de moi. « Faites-le encore parler, que je dis. » Alors il dit « Demandez-lui ce qu'il faut lui servir. » Moi, n'y croyant pas, mais pour la chose de voir, je dis au chien « Qu'est-ce qu'il faut te servir ?» Il recommence. Un veau. Il y avait là ma femme, mes moutards, mon garçon, qui poussait des « Oh, ah !» Et les consommateurs aussi, disant « Ah, il parle, il parle !» Moi, j'étais là comme un Ecce Homo. Si tellement que le maître du chien me dit « Eh bien, servez-nous donc !» Je cours chercher le boc et un morceau de veau. Je sers le boc à l'individu et la viande au chien.
Vous a-t-il dit merci ?
Non, il a sauté sur la viande. Alors là, ma femme qui m'emmène dans un coin, les moutards viennent, mon garçon vient, là, ma femme me dit « Faut acheter ce chien-là. » Tu feras faire une enseigne au chien qui parle. Ça ne désemplira pas ici. Il y a de l'or à gagner. Mes moutards me disaient « Oh oui, papa, achète-le !» Mon garçon, lui, me disait « Ça me fichera rudement du mal. Tout ce monde qui viendra. »
Enfin, vous l'avez acheté.
Oui, monsieur. 400 francs. Mais quand j'ai eu donné mon argent, voilà le chien qui dit à son maître « Oh, c'est comme ça, tu me vends, eh bien, je ne parlerai plus. »
Et en effet, il n'a pas reparlé après le départ de son maître.
Pas un mot, pas une virgule. Mais le soir, tout le monde s'est fichu de moi. On m'a dit que le maître devait être un ventriloque. Alors, me voilà furieux d'avoir été filouté. Je vais chez le commissaire de police, je lui conte mon affaire. Il s'est mis à rire à ventre déboutonné.
Il y avait de quoi. Enfin, que vous a-t-il dit?
Il m'a dit que j'étais trop bête. Et tant pis pour moi. Mais voilà que 8 jours après, je trouve mon filou à la foire de Montmartre, où il était comme étant saltimbanque. Alors, je l'ai fait arrêter.
Le président au prévenu.
Vous êtes ventriloque?
Oui, monsieur.
Et vous avez escroqué le plaignant en lui faisant accroire que votre chien parlait?
C'est lui qui m'a tourmenté pour me l'acheter. Je ne voulais pas, vu que je m'en sers pour gagner ma vie. Alors, le marchand de vin me dit « Je vous en donne 200 francs.
Hein. »
J'ai refusé.
Hein.
300, qu'il me dit.
Hein.
Pour l'or, je me dis à mon appart que je pourrais me procurer un autre chien. Là-dessus, le marchand de vin n'attend pas et me dit « Voyons, je vous en donne 400 francs et avec ça, le boc et le morceau de veau à l'œil. » Ma foi, comme il me tourmentait, j'ai accepté.
Et le chien, qu'est-il devenu ?
Il est venu me retrouver. Mais il est à monsieur, s'il le veut.
Merci, un chien qui ne parle pas ?
Ainsi, c'est vous qui avez tourmenté le prévenu pour lui faire accepter votre argent ?
Parce que ma femme m'avait dit qu'avec l'enseigne du chien qui parle, je gagnerais de l'or gros comme moi.
Dans ces conditions, le tribunal a jugé que le délit d'escroquerie n'était pas suffisamment caractérisé, et il a acquitté l'instructeur de chien. Morale. Ne soyons pas surpris que les bêtes aient parlé autrefois, quand nous voyons aujourd'hui plus bêtes qu'elles qui parlent également.
Affaire suivante. L'argent d'une neuvaine. L'argent d'une neuvaine.
Un brave homme, voyant jouer Tartuffe pour la première fois, s'étonnait, en entendant le verre sur les accommodements avec le ciel, qu'un homme de génie comme Molière pût se servir d'une pensée si connue de tout le monde. Après cette critique de Molière, nous aurions bien tort de nous gêner pour appliquer une citation absolument à sa place ici. Qu'il s'agit d'un portier chargé de payer une neuvaine pour une de ses locataires et disant les prières lui-même. C'est du moins ce qu'il déclare avoir fait pour se justifier d'avoir employé en litres et en petits verres l'argent destiné à la paroisse. La veuve Ramache explique ainsi l'affaire.
Messieurs, j'ai le malheur d'être locataire dans la maison dont cet infamie d'homme est portier.
Le prévenu.
Je me mets sous la protection de la magistrature pour être respecté par cette vieille personne.
Le président au témoin.
N'injuriez pas le prévenu, madame.
C'est qu'aussi, monsieur, il n'y a qu'un cri contre cette créature-là. Que tous les locataires en disent tout le mal possible. Et que même si le propriétaire ne met pas à la porte, nous donnerons tous congé à l'unanimité. Et qu'en tout cas, pour ce qui est de moi, je le donne en masse. Vu que ce n'est pas une existence que d'avoir une horreur de portier qui ne dégrise pas. L'ivrogne qu'il est.
Je porte plainte en diffamation.
Vous porterez ce que vous voudrez. Mais quant à présent, tâchez de vous taire. Et vous, madame, arrivez tout de suite au fait dont vous vous plaignez.
Voilà, monsieur.
Au prévenu.
Oh, vous avez beau me regarder avec vos gros yeux abrutis, vous ne me faites pas peur. Tenez, regardez-moi cette trogne, que ça n'est pas difficile de voir ce qu'il est.
Encore une fois, madame, je vous invite à arriver au fait.
Eh bien, monsieur, le fait, c'est que j'ai des billets de la loterie de l'Exposition universelle. Et que, naturellement, n'est-ce pas, ça me ferait plaisir de gagner le diadème en diamant, ou la calèche de monsieur Binder.
Oh, madame, avec un diadème et une calèche.
Voulez-vous vous taire ?
Je me tais. Mais c'est drôle comme ça irait bien, madame.
Oh, vous aimeriez mieux gagner une pièce de vin. Finalement, monsieur, que je me décide à faire dire une neuvaine pour gagner le gros lot.
Le diadème.
Je m'arrange avec ma paroisse et il est convenu que j'apporterai l'argent. Pour l'or, me trouvant indisposé, je donne l'argent au portier pour le porter. Et que voilà que j'apprends qu'on n'avait pas dit la neuvaine vu qu'on n'avait pas reçu l'argent. Donc, monsieur avait bu les prières, et qu'il faut que je recommence, vu qu'il n'y a rien de fait.
Au prévenu.
Qu'avez-vous à dire ?
Mon président, j'ai à dire d'abord que ce que madame dit que les locataires disent, c'est si tellement faux que même ils m'aiment tous comme un père.
Il ne s'agit pas de cela, mais de l'argent qu'on vous a confié.
Dont, monsieur, tout ça vient que madame a une haine invétérée contre moi.
Encore une fois, parlez-nous donc de l'argent qui vous a été remis pour en faire un emploi déterminé.
Eh bien, je me suis déterminé à en faire l'emploi, étant tourmenté pour quelques dettes criardes.
que vous avez payé avec un argent qui ne vous appartenait pas.
Il m'appartenait, puisque c'était pour des prières et que je les ai dites moi-même. Car, mon président, c'est même dégoûtant qu'on a l'air de me prendre pour un voleur et un homme bas dans ses mœurs. Moi qui ai reçu de l'instruction, que j'écris comme un livre.
En voilà assez.
Les points, les virgules, les trémas.
C'est entendu.
Que madame me doit 10 fois plus en amende qu'elle n'en paie jamais une seule.
Le tribunal le condamne à 2 mois de prison.
Affaire suivante. Un système d'équilibre. Un système d'équilibre.
On serait tenté de croire qu'après l'explication entortillée si connue du menteur de Corneille, un dentiste lui-même n'aurait plus qu'à retirer humblement son chapeau. Nous allons bien voir. Justement, c'est un dentiste que nous allons entendre expliquer un vol qui l'amène en justice. Du moins, c'est la profession qu'il se donne, sans établir d'ailleurs qu'il l'exerce et qu'il en vit. Il se contente d'affirmer qu'il opérait dans les foires, villages, bourgades, et même à l'Isle-Adam, arrachant canines et molaires à 50 centimes l'une, 5 francs la douzaine. Mais il prétend que le métier se gâte, exactement comme si les dents avaient cessé d'en faire autant. Et puis, avec ça, ajoute-t-il, je suis malade et incapable de travailler.
Le président.
Quelle maladie avez-vous ?
J'ai des éblouissements. Alors vous comprenez, monsieur, arrachant une dent au lieu de l'autre, ça m'a coulé à fond de cale. J'ai donc été consulter un herboriste sur mes éblouissements. Il me dit « Comment vous couchez-vous pour dormir ?» Je lui réponds « Tantôt sur une oreille, tantôt sur l'autre. » « Faudra faire le contraire, » qui me dit. « Et puis le soir, avant de vous mettre au lit, faites 12 fois le tour de votre table de nuit. » N'ayant pas de table de nuit, je faisais 12 fois le tour de ce qu'on met dedans. Alors...
Tout cela est inutile. Vous avez soustrait, frauduleusement, 2 morceaux de plomb de 4 kilogrammes chacun.
« Mon président, je vais vous expliquer. »«
Enfin, oui ou non, reconnaissez-vous avoir volé ce plomb ?»«
Je ne reconnais pas ça. » C'est vrai qu'ils étaient attachés sous ma blouse, mais je vais vous expliquer.
Nous allons entendre le témoin.
Une forte femme, une riche nature, s'avance à la barre. Elle déclare être âgée de 46 ans.
Quelle est votre profession ?
Nourrice.
Nourrice ? À 46 ans ?
Oui, monsieur. Voilà près de 30 ans que c'est mon métier. J'ai commencé toute jeune.
Ceci dit, la nourrice explique qu'elle a vu d'une fenêtre de la maison qu'elle habite le prévenu s'introduire sous le hangar d'un plombier, locataire de la même maison, y soustraire 2 gros morceaux de plomb, les attacher à la ceinture de son pantalon et rabattre sa chemise par-dessus.
Le plombier n'était donc pas là ?
Non, car ayant vivement descendu pour le prévenir, il n'y avait personne chez lui. Alors, j'ai sorti dans la rue, et apercevant le voleur, que même il passait 2 sergents de ville, je leur ai conté la chose.
Le président au prévenu.
Eh bien, vous entendez ?
Tout ça, c'est de la blague en bâton.
Oh, et que même ça m'a fait si tellement une révolution que je m'ai dit, c'est sûr que ça va me faire tourner mon lait.
Vous me faites rire avec votre lait de 46 ans. C'est pas du lait, c'est du fromage, c'est des petits Suisses.
Je peux prouver ?
Oh, pas à moi, merci. D'ailleurs, j'ai un témoin, moi aussi, ma concierge.
On appelle la concierge.
Je ne connais pas du tout la chose auquel monsieur est accusé.
Le président au prévenu.
Alors, que voulez-vous lui demander à votre concierge ?
Je voudrais que madame dise si c'est vrai que j'ai des éblouissements.
Pour ce qui est de ça, la mène devant Dieu et devant les hommes. Même que lui ayant conseillé des lavements, un jour qu'il était au lit, je lui en ai monté un, et que, dès que j'ai seulement ouvert la porte, il me dit d'un œil languissant « Ah, mame Champou, je suis bien bas percé. Nous allons voir ça, mon garçon, » que je lui dis.
Allez vous asseoir.
Au prévenu.
Enfin, d'où provenaient les morceaux de plomb dont vous étiez porteur, si vous ne les avez pas volés ?
Je les avais achetés.
Pourquoi faire ?
Oh, vous allez comprendre ça tout de suite, et ces messieurs, idem. allant toujours de-ci, de-là, par la chose de mes éblouissements, qu'à chaque instant je perdais mon équilibre, vu que la tête emportait le reste, je m'étais dit, tiens, en me mettant un fort poids de chaque côté, ça me tiendra d'aplomb.
Telle est l'explication colossale qui a valu à son auteur un an de prison, et justifie ce que nous disons en commençant, qu'après celle du héros de Corneille, on aurait eu tort de tirer l'échelle.
Affaire suivante. Qui des deux est le gendarme?
Une femme et un gendarme sont devant le tribunal de police correctionnelle. Heureusement, l'une a les habits de son sexe et l'autre l'uniforme de son corps. Sans cela, on serait assez embarrassé de dire qui des deux est le gendarme, même en les voyant lutter ensemble, s'il faut en croire l'agent de la force publique aux buffleteries jaunes. La femme est prévenue de vagabondage et de rébellion. La rébellion, le gendarme la fera connaître. Quant au vagabondage, il est établi par l'absence de ressources et de domicile de la prévenue. Le président.
Vous aurez à dire qui vous êtes et ce que vous êtes, car en fait de papier, on n'a saisi sur vous qu'une pièce singulière quand elle est trouvée en possession d'une femme. Cette pièce, c'est un certificat de libération du service militaire. Vous vous expliquerez tout à l'heure.
Le gendarme.
J'ai arrêté sur la route cette femme qui était en train de rouler dans la boue et d'assommer à coups de poing un individu qui, cependant, était d'une taille assez robuste. Il se débattait comme il pouvait, mais elle était à genoux sur les jambes de l'individu et les lui maintenait. D'une main, elle le tenait à la gorge, et de l'autre, elle lui crevait le nez à coups de poing. Il criait « Au secours, à l'assassin !» J'ai accouru à son aide, et j'ai eu toutes les peines du monde à le débarrasser de la prévenue. J'étais parvenu à la relever, et je la tirais de toutes mes forces par un bras. Mais elle avait rattrapé l'individu par les cheveux, et elle l'entraînait avec elle. Il a fini par lui faire lâcher prise, ou plutôt, il s'est trouvé dégagé, parce que la poignée de cheveux s'est arrachée et est restée dans la main de cette furie. Ah, elle a une poigne, celle-là. Et elle tire même la savate, car elle m'a passé la jambe et m'a fait tomber. L'individu et moi, nous avons couru après elle, et vous n'avez pas idée de la lutte qu'il nous a fallu soutenir pour nous rendre maîtres de sa personne. Moi, elle m'a menacé de me faire avaler mon sabre. Finalement, que nous sommes parvenus à l'attacher et à l'emporter. C'est au point qu'ayant trouvé sur elle un certificat de libération du service militaire, nous avons cru que c'était un cuirassier habillé en femme. Seulement, comme elle n'a pas de barbe et qu'on voit bien en la regardant que c'est une femme, nous avons dit simplement, avec des femmes comme ça, on ferait une rude conscription. Voilà la chose authentique et verbalisée comme j'ai eu l'honneur de la rédiger.
Le président a la prévenue.
Pourquoi frappiez-vous un homme sur la route?
Monsieur, parce qu'il m'a accosté en disant que j'étais la plus rude femme qu'il ait jamais vue et qu'il a voulu me faire des entreprises incongrues. Alors, je lui ai posé une gifle. Sur quoi, il a voulu se rebiffer et je me suis défendue comme j'ai pu. Et sans le gendarme, je succombais comme deux et deux font quatre.
Ce n'est pas ce que dit le gendarme, puisqu'il déclare qu'il a eu beaucoup de peine à retirer cet homme de vos mains.
J'étais si en colère que ça me donnait des forces. Un homme que je ne connais pas, et que, sans me faire la moindre déclaration, ni me dire qu'il m'aime, il s'en vient m'appréhender d'un attentat malhonnête.
Nous allons l'entendre.
Le don Juan de grande route est appelé à la barre. Il prétend qu'il avait un petit coup de vin et reconnaît qu'il a, en effet, plaisanté un peu avec la prévenue. Mais, dit-il, si j'avais su avoir affaire à une gaillarde comme ça, je ne m'y serais pas frotté. le président alla prévenir.
« Maintenant, dites-nous donc ce que c'est que ce certificat de libération du service militaire trouvé en votre possession. »«
Monsieur, je vais vous dire, je l'ai trouvé. Alors, il m'est venu une idée, étant pas mal forte. »
En effet, le gendarme et cet individu en savaient quelque chose.
Je m'ai imaginé de travailler comme homme pour gagner davantage. Si bien que j'ai trouvé de l'ouvrage comme ancien militaire. J'ai été garçon de ferme, maçon, charretier, carrier. Finalement, qu'un jour, voilà un de mes patrons qui me dit « Écoute, t'es un rude gars, un cheval au travail, tu ne te déranges pas, tu ne te saoules jamais. Si ça te va, je te donne ma fille en mariage. » Vous comprenez mon embarras. J'ai été obligé de refuser. Alors, il s'est fâché. Si bien que j'ai été obligé de lui dire la chose. Et qu'alors, tous les autres ouvriers sachant ça, il n'y avait plus moyen de rester. C'est donc de là que j'ai cessé de faire l'homme, et je venais à Paris quand l'affaire du gendarme est arrivée.
Pouvez-vous dire chez qui vous avez travaillé?
Certainement.
La prévenue donne les noms et les adresses des divers patrons qui l'ont employé comme homme. Elle fait notamment connaître celui qui lui a offert sa fille en mariage, et le tribunal remet à huitaine pour les faire citer.
Affaire suivante, la douche.
Étant avant tout bien entendu que l'honnête et vertueux M. Tourtier est d'une moralité inattaquable, on sera profondément surpris de le voir poursuivi pour outrage à la pudeur. Mais on ne le saura jamais plus que lui, non qu'il nie le fait matériel de s'être trouvé en plein jour dans son escalier en costume de modèle d'académie, mais parce que l'intention d'outrager la pudeur n'a jamais souillé sa pensée. On en saurait, d'ailleurs, douter à son langage, véritable cri de la déesse dont il avait le costume. Encore l'avait-il modifié, ce costume, en se voyant surpris par des témoins du beau sexe et couvrant rapidement le devant de son corps d'une grande bassine en zinc. Il rappelait bien plutôt, moins le casque en tête et le glaive à la main, ces Romains des tableaux classiques représentés vêtus de leur seul bouclier. Disons que ceci s'est passé pendant les chaleurs torrides affirmées par nos thermomètres en délire, et écoutons la concierge de l'infortuné Tourtier, la veuve major.
Pour ce qui est de ma propre pudeur, vous comprenez qu'étant une femme d'âge, ça n'a pas d'inconvénient que je me sois trouvée au vis-à-vis de monsieur. Bien que je peux dire qu'excepté feu major, je ne connaissais pas l'espèce humaine du sexe de monsieur Tourtier. Mais pensez si ça a été de même d'une jeune personne qui n'est pas habitué aux inconséquences d'un mari. Eh, monsieur, si vous aviez entendu son cri! Ah, maman, quelle horreur! Vu qu'elle était avec madame sa mère et qu'elle s'est réfugiée dans son sein, que là-dessus la dame s'est sauvée avec sa demoiselle et qu'elle a envoyé des sergents de ville.
Mais comment étiez-vous dans l'escalier avec ces dames?
Mais, monsieur, pour aller leur montrer un logement.
Le président au prévenu.
Il y a sur votre compte d'excellents renseignements.
Hélas, monsieur, je vous en fournirai tant que vous voudrez. Je suis victime d'un accident déplorable. On m'avait conseillé de prendre des douches pendant les grandes chaleurs. Alors j'avais acheté une bassine, un seau et une grosse éponge, et comme il y a un plomb dans l'escalier, juste devant ma porte, c'était très commode pour aller jeter l'eau une fois ma douche prise. Si bien que le jour où le malheur est arrivé, je sors avec ma bassine pleine, ma fenêtre était entr'ouverte à cause de la chaleur. Ça fait un courant d'air qui me ferme la porte, et la clé était en dedans. Et me voilà sur mon palier, nu comme une anguille, jugé de ma position. Aller chercher le serrurier, je ne le pouvais pas, vous pensez bien. J'étais là comme un fou, tenant ma bassine et me disant... Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire?
Aussi, c'était bien imprudent à vous de ne pas vous habiller avant d'aller vider votre bassine.
Eh, monsieur, la veille, je m'étais rhabillé, et en allant vider mon eau, j'en avais renversé une partie dans mon pantalon. Voilà pourquoi.
Vous deviez bien penser que vous pouviez être surpris.
Mais je m'étais assuré qu'il n'y avait personne, monsieur le président, et c'était l'affaire de 2 secondes, c'est ce malheureux courant d'air. J'étais comme un fou, je vous dis, au point que je n'ai pas entendu monter. Et jugez de ma stupeur en voyant paraître ma concierge et 2 dames. Instinctivement, je mets vivement ma bassine devant moi. Elle était pleine, et me voilà prenant une nouvelle douche. Là-dessus des cris « Ah, maman !» et une autre voix qui dit « C'est abominable !» et la concierge qui crie « Quelle horreur !» Alors, monsieur, je perds la tête. Je m'assieds brusquement dans le plomb, et je mets la bassine devant moi. Juste à ce moment, un locataire du dessus vide de l'eau dans le plomb. Ça me fait une telle sensation que je me relève comme un ressort en lâchant ma bassine. Eh bien, monsieur, le sentiment de la moralité était si vif chez moi qu'il a été plus fort que mon ahurissement, et une pensée dont vous me tiendrez compte, je l'espère, m'est venue. Je me suis retourné. Que pouvais-je faire de plus? Qu'auriez-vous fait à ma place? Voilà la vérité, messieurs. J'espère que vous ne me flétrirez pas par une condamnation pour un délit honteux, mais étranger à mes mœurs. »
Le pauvre homme demandait au juge ce qu'ils auraient fait à sa place. C'est le cas de demander qu'auriez-vous fait à la leur. Vous auriez acquitté l'infortuné tourtier. Ils ont en effet déclaré que l'intention constitutive du délit n'existait pas. Et ils l'ont renvoyé des fins de la poursuite, au rire approbatif de l'auditoire.
Ah oui. Pardon, monsieur le président.
Affaire suivante. Une fête de famille.
La fête de Pajon a commencé, comme toutes les fêtes, par des bouquets, des embrassades, des compliments et des santé portées le verre à la main. Elle s'est terminée de la façon qu'on va connaître. 2 ménages, le ménage Bureau et le ménage Drouillot, viennent s'asseoir au banc des prévenus. Le ménage Pajon va s'asseoir au banc de la partie civile. Le président à Pajon.
Vous autorisez votre femme à porter plainte?
Comme ayant reçu un morceau de tarte à la frangipane en pleine figure et son bonnet déchiré.
Enfin, vous l'autorisez?
Dès demain.
Combien demandez-vous de dommages et intérêts?
On m'a dit de demander 500 francs pour en avoir 25. Je demande 500 francs.
Imbécile.
Dites ce dont vous vous plaignez.
Étant le jour de ma fête, nous avions invité monsieur et madame Bureau, ainsi que le sieur Drouillot et son épouse, et d'autres amis qui se sont contentés de s'enivrer, mais qui se sont maintenus en gens distingués, tandis que le sieur Bureau et sa femme, ainsi que le sieur Drouillot et la sienne, se sont conduits comme des gens de la classe la plus inférieure. D'abord, c'est monsieur Drouillot qui, étant en ribote, commence par prendre des libertés avec mon épouse, que là-dessus, voilà sa femme qui se met à faire une scène de jalousie à la mienne, qui lui répond « Il en a fait bien plus avec Mme Bureau, que vous ne dites rien. » Là-dessus, v'là Mme Bureau, qui entreprend ma femme, dont moi je prends son parti. Voyant ça, Bureau prend le parti de sa femme, que pour lors, les voilà tous les 4 contre nous, les gens que nous avions invités, monsieur, dont j'avais fait des frais de vin, de gâteaux et de liqueurs, jusqu'à de la chartreuse, et de l'anisette pour les dames, qui n'aiment pas le fort.
Voyons, quel coup avez-vous reçu?
Ça a commencé par Bureau, qui m'a envoyé une bouteille à la tête, dont je me suis effacé, et que la bouteille a été cassée un pot à l'eau, et une cuvette de 45 sous. Ma femme, là-dessus, lui repasse une gifle, Mme Bureau lui arrache son bonnet, moi, je me défends contre Bureau, j'attrape Drouillot par mes gardes, qui m'envoie un coup de chandelier. Ma femme va pour sauter sur lui, mais la sienne envoie à la mienne un morceau de tarte qui lui bouche tout le visage, et elle lui arrache son bonnet, si bien que nous voilà tous les 6, que nous sautons les uns sur les autres, on renverse la table, v'là les assiettes, les verres, les bouteilles qui tombent, patatras. Et nous, par-dessus, les jambes en l'air. Enfin, une orgie.
On s'amuse singulièrement à votre fête.
Avec des gens pareils, comment voulez-vous? Les autres, voyez, ils se sont contentés de s'endormir. Ils ont tombé avec la table, et ils sont restés par terre sans rien dire.
Asseyez-vous. Bureau, qu'avez-vous à dire?
Mais, vous voyez, le sieur Pajot vous a dit la chose. Nous nous sommes attrapés tous, on ne sait pas qui est-ce qui a commencé.
Et vous, Drouillot?
Moi, si jamais je reçoite la fête au sieur Pajot, il fera chaud. Comment? Il nous invite, et on se fiche des peignées chez lui, que toute la maison en était en l'air. Est-ce que je sais seulement comment c'est venu? Nous étions tous en ribote, on s'était attrapés, c'est bien, le lendemain on n'y pense plus. Et pas du tout! Il s'en va chez le commissaire, et nous voilà ici. Moi que je suis pressé, que j'ai 14 grosses de procédés à livrer à un cafetier. C'est dégoûtant!
Et ils nous demandent des dommages-intérêts pour payer leurs tartes et leur vin, qu'ils peuvent bien les garder une autre fois.
Ah oui! Et se souhaiter leur fête sans nous! Merci! C'est du propre!
Ah, vous n'avez pas besoin de le dire, même bureau!
Le tribunal, sur l'avis du ministère public, a renvoyé les prévenus de la plainte et condamné la partie civile aux dépens.
Affaire suivante. L'enterrement d'un ami.
Hippocrate ordonne que, pour sa santé, l'homme s'enivre une fois par mois. Babion, comme Scaramouche, pour bien observer l'ordonnance, fait 3 répétitions par semaine au moins. Et il ne s'en porte pas mieux pour cela, si l'on en croit ses plaintes devant le tribunal de police correctionnel. Il est prévenu de récidive d'ivresse. On pourrait même dire d'archi-récidive. Par une pluie, à ne pas mettre une grenouille dehors, des agents l'ont trouvé couché, en pleine nuit, sur les marches du tribunal de commerce. Si bien qu'il n'a eu que la rue à traverser pour aller au dépôt. Sans cela, il eût fallu une voiture pour l'y conduire. Telle est du moins la version des agents. Lui prétend qu'il n'était qu'ému.
« Voilà,
dit-il.
Ayant perdu un ami, que nous l'avions conduit à Montparnasse, on avait entré en revenant chez le marchand de vin, on avait mis les petits canons dans les grands, alors je me suis trouvé un peu éméché, simplement. »
L'agent.
« Il était tellement ivre que quand nous l'avons éveillé, il a demandé à bénir ses enfants. »
« Ça prouve que je suis bon père, mais pas que j'étais saoul. Et je ne permets à personne, pas plus qu'à autrui. »«
Vous n'avez ici rien à permettre ou à ne pas permettre. »
« Je le retire. Mon agent, vous avez eu l'erreur. Un autre dirait la bêtise, mais je vous respecte. Vous avez eu la bêtise de croire que j'étais en ribote, tandis que j'avais de la souffrance, vu que je suis criblé d'un tas de choses. Des rhumatismes à ne plus savoir où les mettre, des coliques que le sacrifice d'Abraham n'est rien à côté. »
« Taisez-vous. »
À l'agent.
« Il ne vous a pas insulté. »
« Non, seulement en nous reconnaissant. Il a poussé une espèce de cri de fureur. »
« Je le retire et je vous prie de le considérer comme de joie. »«
Enfin, que faisiez-vous sur les marches du tribunal de commerce en pleine nuit, par une pluie battante, si vous n'étiez pas ivre ?»«
Mon président, je ne voudrais pas vous abuser, ça serait plat. »«
Voyons, répondez. »«
Je m'étais assis là pour m'arracher une dent. »« Venez, lave-la, y a pas de quoi rire. »
Il cherche sa dent dans toutes ses poches.
C'est inutile. Asseyez-vous.
Le prévenu relevant sa lèvre avec les mains.
Tenez, j'ai le trou, on le voit.
Asseyez-vous.
Le prévenu s'assied, mais continue à montrer l'alvéole de sa dent absente au tribunal, au greffier, à l'huissier, aux gendarmes et à l'auditoire. Le tribunal le condamne à 2 mois de prison, 16 francs d'amende et 2 ans d'interdiction de ses droits civiques.
Affaire suivante. Une posture encombrante.
Le raisonnement du jeune Pérou est, nous allions dire, une impasse. Mais il s'agit d'une prévention d'outrage à la pudeur.
et cercle vicieux est plus en situation. La victime de cet épicurien de 17 ans est la veuve Létuy, qui en a 48. Elle a dû être très croustillante à l'époque de la Révolution de février. Aujourd'hui, sa beauté et sa taille ont disparu sous des cascades de graisse. Et elle est de ces femmes dont on dit qu'on peut les embrasser pendant un an et jamais à la même place. Dire l'étonnement de l'auditoire en l'entendant se plaindre de l'attentat que l'on sait serait bien inutile. Mentionnons seulement que, dès les premiers mots de sa déposition, M. le Président était dans la nécessité de réprimer les rires des personnes présentes à l'audience.
« Oui, messieurs, »
reprenait la veuve Létuy après le rétablissement du silence.
« J'étais, comme je vous dis, courbée pour relever mon bas qui tombait, quand tout à coup, je me sens saisir... au-dessous de la taille.
Par-dessus vos vêtements?
Certainement, monsieur. Mais il me semble que c'est déjà bien joli.
Oh, joli.
Tâchez de vous taire.
Alors, monsieur, je jette un cri qu'un chien qui passait s'en est sauvé. Je me retourne et je vois ce polisson qui me regardait avec des yeux flamboyants.
Moi?
Voulez-vous vous taire?
Je me précipite dans les bras d'un sergent de ville en criant « À moi, débarrassez-moi de ce drôle !» C'est comme ça que nous avons été chez le commissaire de police.
Qu'avez-vous à dire, Pérou ?
Moi, monsieur, c'est justement si insensé de la part de cette vieille dame que le monde ici présent s'en est mis à rire.
Enfin, reconnaissez-vous le fait ?
Je le reconnais, oui et non. C'est vrai et c'est pas vrai. Sentant que, pour ce qui est de la pudeur de madame, que si j'y ai seulement pensé, je veux bien qu'on me dépiote, qu'on me coupe en petits morceaux. Dieu merci, si je voulais une pudeur, je trouverais encore mieux que ça. C'est pas pour dire.
Goujat !
Enfin, qu'avez-vous fait ?
J'ai fait que, madame encombrant complètement la rue, vu son énormité et la position qu'elle avait prise, qui m'empêchait de passer, je dis en riant, « Merci, plus que ça !» Alors je l'ai dérangé avec ma main simplement pour passer. Mais pour ce qui était d'avoir des idées, merci.
Le président à la veuve Létuy.
Est-ce exact ?
Mais monsieur, il avoue lui-même ce que j'ai dit.
Alors, c'est tout ?
En pleine rue ! Et qu'est-ce qu'il pouvait de plus ?
Le président au prévenu.
Cette femme a pu se méprendre sur votre intention. Mais enfin, le fait matériel existe. Et en supposant qu'il n'est pas le caractère d'un délit, il constitue au moins une grave inconvenance.
Mais, monsieur, c'était très embarrassant. Si je l'avais repoussée avec mon pied, elle aurait dit que je l'avais frappée. Je la repousse avec la main. Elle dit que j'offense sa pudeur.
Il fallait ou la prier de vous laisser passer, ou attendre quelques instants. Mais d'ailleurs, quand vous dites que madame vous empêchait de passer... « Ce n'est pas sérieux. Vous feriez mieux de dire que vous avez voulu faire une plaisanterie. »«
Je dis pas que c'était pas pour rigoler un peu, que tout le monde même regardait la posture de madame en riant et en disant « Oh, oh, oh !» Même que c'est de là que j'ai dit « Merci, plus que ça !»
Le tribunal a jugé que la prévention n'était pas suffisamment établie et a renvoyé le prévenu des fins de la plainte.
Affaire suivante. Né pour la science.
Il y a telle ou telle théorie qui, bien que discutable, est en